Alors, aujourd'hui, on a la chance, le privilège de démarrer une nouvelle série. On a terminé notre série sur les réveils avec l'église de Brignoux. Et ce mois-ci, on fait une série, juste nous penchera, sur la lettre aux Colossiens. Donc nos 5 prochains dimanches seront adressés à cette lettre de Paul aux Colossiens. Alors pour situer un petit peu Colosse, c'est une ville de Turquie, d'Asie mineure. Je ne sais pas si on voit très très bien, là on voit un petit peu la Grèce et l'ouest de la Turquie. Si on zoome un petit peu, voilà, vous avez ici Colosse. Donc Colosse qui était une ville qui autrefois était importante, mais au temps de la lettre que nous allons lire, qui est datée de la fin des années 50, peut-être le début des années 60, ce n'est plus vraiment une très grande ville, c'est une bourgade qui est dépassée par 2 autres villes qui ne sont pas très très loin, Laodicée et Hériapolis. Alors l'histoire de Colosse, et plus particulièrement l'histoire de l'église de Colosse, c'est qu'elle n'a pas été fondée par Paul, elle a été fondée par Épaphras qui a collaboré avec Paul et qui est en prison avec Paul actuellement, alors soit en visite, soit emprisonné, mais probablement en visite. On ne connaît pas beaucoup de choses d'Épaphras, si ce n'est la manière dont Paul en parle. Et quand il parle d'Épaphras, il parle d'un cher collaborateur. Il parle d'un fidèle serviteur de Christ, quelqu'un qui combat sans cesse pour les Colossiens dans ses prières. Et qu'est-ce que dit Épaphras à Paul à propos des Colossiens ? Ils se portent très bien, mais ils sont sous pression. Effectivement, les Colossiens sont des chrétiens de fraîche date, qui ne sont pas là depuis très longtemps, pas chrétiens depuis très longtemps. Et visiblement, ils sont en butte à certaines difficultés, à certains risques, à certaines tentations, à certaines pressions, qui viennent de faux enseignements, qui viennent d'une pression probablement sociale, culturelle. Et pour eux, chrétiens de fraîche date, ça pouvait être probablement attirant et surtout facile de revenir à des pratiques ou des modes de pensée dans lesquels ils avaient baigné pendant des années. Alors quels sont ces faux enseignements ou ces pressions auxquelles étaient confrontés les Colossiens ? On n'en sait pas trop plus que ça, puisqu'on a juste la lettre de Paul, donc on devine. Paul ne prend pas la peine de détailler tout ça, parce que les Colossiens connaissaient, Paul connaissait. Donc au travers des réponses de Paul, nous, on essaie de remplir un petit peu les blancs. Et on peut deviner que dans cette lettre de Paul aux Colossiens, il y a justement cette question de philosophie trompeuse et vide, c'est-à-dire de questions d'enseignement qui étaient sophistiquées, qui présentaient une sagesse, une connaissance particulière qui était importante, nécessaire au salut ou nécessaire à la plénitude. Et donc il fallait acquérir, connaître, maîtriser ces connaissances-là. On sait aussi à cette époque, ça transpire un petit peu du texte, qu'il y a les germes des systèmes de pensée gnostique qui seront particuliers au IIe siècle. Et dans ce système, dans ces systèmes de pensée, on avait d'un côté le mépris de la matière et du corps. Et donc, puisque tout ce qui était matériel, corporel, terrestre était méprisable, les gens avaient soit des comportements très, très laxistes, libertins, notamment sexuels, ou très ascétique, c'est-à-dire qu'on se privait de tout, on avait des comportements très... Il fallait maîtriser la matière. Et d'un autre côté, il y avait un intérêt pour tout ce qui était spirituel, mais aussi pour les êtres célestes. Et on parlait de culte des anges, de culte des esprits. On sait que dans le monde gréco-romain, l'astrologie orientale a une très grande influence, et probablement de cette influence-là est née certaines pratiques, certains cultes. Bref, on a affaire à un mélange d'éléments juifs et hellénistiques, une sorte de syncrétisme où on a ramené un petit peu plein de choses diverses et variées, des croyances, des pratiques, qui finalement n'avaient rien à voir avec l'Évangile et rien à voir avec le Christ. Et face à tout ce méli-mélo, Paul va apporter une seule réponse. Face à tous ces faux enseignements, il va apporter qu'une et unique réponse. Devant toutes les tentations, les difficultés, les pressions que les Colossiens rencontrent, il ne dira qu'une seule chose. Qui est Christ ? Qui est Christ ? Et tout le reste en découle. C'est à la fois bluffant de simplicité et impressionnant par la richesse absolue de cette réponse. Tout est issu de Christ. Et ce qu'on va voir dans cette série, c'est à quel point Christ est le centre, qui il est, et finalement tout ce que ça implique. Alors ce matin, on va lire une partie du premier chapitre, et j'aimerais vous apporter trois exhortations, trois sujets de réflexion. Le premier, c'est, à l'exemple de Paul, d'avoir une vie de prière alimentée par la connaissance de Dieu. J'aimerais aussi vous présenter la vision que Paul partage, une compréhension absolument époustouflante du Christ, et que Rebecca nous a lu tout à l'heure. Et le dernier point, c'est notre place en Christ. Alors on va lire le début de ces versets. À partir du verset 3, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi présent dans le monde entier où il porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Épaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. On a une introduction, j'ai envie de dire, classique d'une lettre de Paul où il salue ses destinataires et il commence par parler de la reconnaissance à leur sujet. Et puis on verra après qu'il exprime des souhaits de croissance, de développement, bref, des bonnes choses pour eux. À quelques exceptions près, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les lettres de Paul. Et il arrive qu'on y passe un peu vite parce qu'on a l'impression qu'on est face à un peu comme un protocole. Vous savez, au boulot, bonjour, ça va. On ne veut pas de réponse, on n'attend pas de réponse, mais c'est le protocole de dire si ça va, n'est-ce pas ? À l'église, c'est un peu différent parce qu'on se dit ça va, on a envie de savoir si ça va. Mais parfois, on dit ça va juste par habitude, parce que ça se fait comme ça. Et parfois, on passe un peu sur ces écrits de Paul, un peu vite, en disant « C'est les salutations habituelles, merci, super, il y a plein de bonnes choses, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, puis on passe un peu vite, parce qu'après, on veut le cœur de la meule, là, en fait, hein, son enseignement, ce qu'il va apporter, etc. » Sauf que Paul, il parle pas pour rien dire. Et ça vaut le coup de s'y arrêter de temps en temps. Paul est reconnaissant. Pourquoi Paul est reconnaissant ? Il est reconnaissant pour la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens. La foi, l'amour et l'espérance des Colossiens. Cette triade, on la retrouve par ailleurs chez Paul. Vous connaissez peut-être 1 Corinthiens 13, cette merveilleuse description de l'amour. Et il termine cette description au verset 13, 1 Corinthiens 13, 13, en somme, trois choses demeurent. Je vous le donne en mille. La foi, l'espérance et l'amour. Sinon, je n'en parlerai pas de ce verset, bien sûr. Et la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Trois choses caractéristiques de la vie du chrétien, caractéristiques de la vie de l'Église. Et Paul est reconnaissant que ces qualités chrétiennes soient bien présentes dans l'église de Colosse. Mais sa reconnaissance va même plus loin parce que si ces qualités sont présentes, c'est le résultat de l'annonce de l'évangile, de la prédication de la vérité. Cet évangile qui va de progrès en progrès, qui porte du fruit ici à Colosse et dans le monde entier. Et s'il porte du fruit, il n'est pas en train de dire aux Colossiens, regardez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est peut-être simplement la maturité de ce fruit-là. Vous vous aimez de plus en plus. Votre foi devient de plus en plus profonde. Votre espérance se développe. Sans vouloir être cynique, C'est un peu normal quand même dans une église. Paul se réjouit que les Colossiens, que chez les Colossiens, il y a de l'amour, de la joie, de l'expérience. Super. Mais il dit, nous exprimons constamment à Dieu notre reconnaissance. Constamment. Constamment au sujet de choses qui sont simplement constitutifs de la vie chrétienne. Parce que finalement, ça serait quoi cette église de Colosse s'il n'y avait pas l'amour ? Ça serait quoi cette église de Colosse s'il n'y avait pas la foi ? Ou s'il n'y avait pas l'espérance ? C'est un peu normal quand même. Pourquoi s'y arrêter ? Il y a quelque chose peut-être d'ordinaire ou de simplement constitutif de la vie chrétienne, de la vie de l'Église, et en même temps il y a quelque chose de là qui est complètement extraordinaire. Parce que cette foi, cet amour, cette espérance, ce n'est pas l'œuvre des Colossiens. Ce n'est pas l'œuvre de leurs efforts, ce n'est pas l'œuvre de leurs prédispositions, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'effet de l'Évangile qui transforme les vies, c'est l'œuvre de l'Esprit qui change les cœurs. Et Paul, il n'est pas en train de féliciter les Colossiens en disant « Regardez, c'est chouette ce qui se passe chez vous. » Il est en train de remercier Dieu, parce que voilà ce qui se passe. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre là derrière. Dans ce qui pourrait paraître un petit peu normal dans la vie de chrétien ou dans la vie d'une église, il y a des choses qui méritent qu'on s'y attarde, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train d'œuvrer. C'est Dieu qui est en train de faire avancer les choses. Et il y a de quoi alimenter notre prière, il y a de quoi alimenter notre louange et notre reconnaissance. De la même manière, si on continue notre lecture, comme d'habitude, entre guillemets, Paul exprime sa reconnaissance, mais il a aussi des sujets d'intercession pour les Colossiens. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Paul demande aussi des choses pour les Colossiens. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de comprendre, connaître pleinement la volonté de Dieu, d'avoir une entière sagesse et un parfait discernement. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui notent que ce sont là des vertus valorisées par les philosophies gréco-romaines. La connaissance, la sagesse. Et Paul nous invite à cet effort, à cette démarche intellectuelle, parce que la vie avec Dieu, c'est pas en absence de cette démarche intellectuelle, de cette réflexion, de cette compréhension, quel est le projet de Dieu ? Dieu veut nous donner cette sagesse, Dieu veut nous donner cette connaissance. Et cette sagesse, cette connaissance, elle s'inscrit aussi dans la culture juive de Paul, où il n'est pas question d'une dimension purement théorique et intellectuelle, mais aussi d'une sagesse et d'une connaissance pratique qui nous assiste, qui nous guide, qui nous éclaire dans les questions très pratiques de la vie quotidienne. Comprendre la volonté de Dieu, rechercher la sagesse et avoir du discernement. Pourquoi ça ? Pour avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Avoir une vie riche d'œuvres bonnes et également le moyen de progresser dans notre connaissance de Dieu. Avoir une vie qui a du sens, avoir une vie qui sert à quelque chose. Est-ce que ce n'est pas une question que tellement de gens se posent aujourd'hui ? Et nous aussi, finalement. Avoir une vie qui a du sens. Et pour cela, il faut comprendre la volonté de Dieu, rechercher la sagesse et le discernement. Une vie qui plaît à Dieu, une vie où on le connaît, une vie où on progresse et on ne stagne pas dans notre vie avec lui, on apprend petit à petit un peu mieux qui il est. Et derrière, on rentre dans un processus où on va supporter, persévérer, exprimer notre reconnaissance. Voilà ce que Paul demande à Dieu pour les Colossiens. Et on pourrait se dire, encore une fois, mais on est dans des choses très banales et très classiques de ce qu'on peut attendre d'un chrétien, de gens dans une église. Avoir des œuvres bonnes, avoir une vie qui plaise à Dieu, rechercher sa volonté, c'est le béaba de tout chrétien. Et Paul est en train de dire, nous exprimons constamment à Dieu notre reconnaissance. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. On se remet un peu dans l'introduction que je vous donnais tout à l'heure. Paul est en prison. Paul, sa mission, ce qu'il fait vibrer, c'est d'évangéliser. C'est de démarrer des nouvelles églises. Et là, il est coincé en prison. Les Colossiens, ils sont face à une pression sociétale, culturelle, de retour à certaines pratiques, à certaines croyances. Et Paul va en parler. Mais ce qui est en train d'alimenter sa vie de prière, c'est simplement sa connaissance de Dieu. Simplement de ce qu'il vit, de ce qu'il connaît de Dieu. Et ça, ça suffit à ce qu'il ne cesse jamais de prier, parce qu'il y a toujours des sujets à apporter. Ce qui alimente la vie de prière de Paul, ce n'est pas les circonstances, ou ce n'est pas que les circonstances. Elles sont présentes, les circonstances. C'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Mais ce qu'on voit dans la vie de Paul, c'est que sa relation avec Dieu, c'est suffisant pour alimenter toute sa vie de prière. Sa foi et son amour pour Dieu. Il n'oublie pas les circonstances, mais il n'est pas juste centré sur les circonstances. Et je trouve ça intéressant et ça me questionne aussi. Sur quoi je suis centré ? Parce que moi, comme vous, je prie quand les choses ne vont pas bien ou quand il m'arrive aussi des bonnes choses, je vais remercier Dieu, mais j'agis par rapport aux circonstances et c'est une bonne chose. Mais je vois que Paul, il n'attend pas ça. Sa vie, sa foi, sa prière n'est pas juste alimentée par les circonstances. Elle est alimentée par sa relation avec Dieu. Par qui est Dieu ? Et il ne cesse pas de prier et d'être reconnaissant à Dieu pour ça. Continuons dans notre lecture. Parce que Paul est en train de parler de reconnaissance, il termine avec la question de reconnaissance. Et il trouve en Jésus un sujet inépuisable de remerciement et de louange. Et probablement en réponse aux tensions auxquelles les Colossiens faisaient face, Paul nous livre une description cosmique de Jésus. Je pèse mes mots, cosmique de Jésus. On va la lire. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Dans ce texte-là, ça paraît peut-être pas au premier regard, mais il y a une structure qui est intéressante, donc on va le réécrire un petit peu différemment. Paul est en train de nous décrire la prééminence totale et absolue de Christ sur tout ce qui existe. Il a la position unique et suprême sur absolument toute la création. Au verset 15, il est présenté comme l'image de Dieu. Dans la pensée grecque, l'image, c'est pas juste un reflet, comme nous on entend image. Dans la pensée grecque, l'image participe à la nature. C'est une émanation. Pour Paul, le Fils est la manifestation, la révélation de Dieu. Ça veut dire qu'il est impossible de voir Dieu. C'est impossible de connaître Dieu. C'est impossible d'y avoir accès parce que Dieu est infiniment glorieux, par définition inaccessible. Et pour comprendre ou connaître quelque chose de Dieu, il n'y a qu'un moyen, il n'y a qu'un chemin. Celui qui a dit « Je suis le chemin », c'est-à-dire Christ. Sans Christ, on ne peut pas connaître Dieu. Il est le premier-né de toute création. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, ça veut dire qu'il a le plus haut rang sur toute la création. C'est lui qui est au-dessus de tout. On trouve cette expression, par exemple, dans Psaume 89, au verset 28, où il est dit que Dieu fera du roi David son fils premier-né, et juste après, c'est expliqué, c'est-à-dire le roi le plus important de la terre. Pourquoi le roi le plus important de la terre ? Parce qu'il est le roi du peuple que Dieu a choisi. Et on retrouve aussi cette idée dans la culture de l'Ancien Testament, avec le droit d'aînesse. Celui qui était le premier-né avait les honneurs, les avantages. C'est aussi pour ça, dans l'histoire de l'Ancien Testament, que bien souvent, Dieu ne choisit pas les premiers-nés. Il est le premier-né de toute création. Ça veut dire qu'il n'y a rien ni personne dans toute la création qui soit au-dessus de Christ. Jésus a l'absolue prééminence. Il est au-dessus de tout. Au verset 16, Paul va encore insister en disant qu'en Christ, tout a été créé. Tout a été créé. Et pour que ça soit clair, eh ben, il va même le dire de différentes manières. C'est-à-dire dans les cieux comme sur la terre. On ne parle pas de zone géographique. On parle de considérations matérielles, souvent dans la Bible quand on parle du ciel et de la terre. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est immatériel. En dehors de ça, il n'y a plus rien. D'accord ? Donc tout. Le matériel, l'immatériel. Tout. Le visible, l'invisible. En dehors de ça, il n'y a rien. Tout. Rien n'a été fait sans lui. Rien n'a été fait indépendamment de lui. Rien n'a été fait en dehors de lui. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout ce qui pourrait se trouver dans cette liste-là, des trônes, des seigneuries, des autorités, des puissances. De quoi exactement parle Paul ? Certains y voient le pouvoir, la puissance terrestre des rois, des dirigeants de ce monde. Mais en comparant avec d'autres passages, Éphésiens et d'autres encore, en fait, où Paul utilise cette même expression, on voit qu'il fait plus vraisemblablement allusion au monde spirituel, aux esprits et aux anges. Et on ne sait pas si les Colossiens ont été confrontés à ces puissances et ils en sont effrayés, ou s'ils font face à la tentation de rendre un culte à ces anges, parce qu'il y a des versets plus loin qui parlent de ça. Mais tout ce qui, pour nous, est peut-être un peu mystérieux, peut-être impressionnant et peut-être aussi effrayant, mais Christ est au-dessus de tout ça, parce que ça, c'est que des créatures. Aussi puissante soit-elle, aussi impressionnante soit-elle, tout ça, ce n'est que des créatures. Christ est au-dessus. C'est en lui que tout ça a été créé. Il est l'agent, l'ouvrier, le maître d'œuvre, la finalité de toute la création. Et pour enfoncer une dernière fois le clou, parce que Paul, il aime bien enfoncer les clous, il va même nous expliquer que tout subsiste en Christ. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui pensent ça en fait, ils pensent que Dieu a créé le monde et puis il l'a laissé. Et là, Paul nous dit non, aujourd'hui, dans la création, tout subsiste en Christ. D'autres versions ont, tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est par lui que toutes choses sont maintenues à leur place. Personnellement, ça me fait un peu exploser le cerveau ça en fait, parce que ça me dépasse complètement. Paul est en train de dire pourquoi est-ce que le cosmos ne se disloque pas ? Pourquoi est-ce que tout se décompose pas maintenant, là, instantanément ? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais on sait qu'il y a des lois de la physique, de la science qui expliquent que... Bah, qui expliquent comment ça marche. Pourquoi elles sont là, ces lois ? Pourquoi elles fonctionnent ? Vous savez ce qui se passe si je lâche la télécommande ? Elle va tomber. pourquoi elle tombe. Et puis vous savez, si je la lâche dans 2 minutes, elle va tomber de la même manière. Si je la lâche chez moi, elle va tomber de la même... Si je la lâche de l'autre côté du monde, elle va tomber de la même manière. Pourquoi est-ce que l'univers est ordonné? Pourquoi est-ce qu'il est cohérent? Parce que Christ le rend cohérent. Parce que Christ l'ordonne. Christ fait tout subsister. C'est lui qui maintient toute chose, tout l'univers, tout le cosmos dans son ordre et dans sa cohérence. En Christ, tout subsiste. Non seulement il a tout créé, par lui, pour lui, pour lui, par lui, en lui, pour lui. Enfin, on a fait le tour là. Hein. Mais il maintient toute chose aujourd'hui. Il assure la cohésion de cette création. Et si Christ a cette position suprême, totale et absolue sur toute la création aujourd'hui, telle qu'elle existe, Paul, il est aussi en train d'aborder ce qui touche à la nouvelle création. Il est lui-même la tête, et à la tête, il y a un jeu de mots, de son corps qui est l'Église. Cette Église, elle est là, déjà aujourd'hui, dans la création actuelle, et elle sera aussi dans la nouvelle création. Dans ce royaume de Dieu qui arrive, qui est déjà là et qui est encore à venir. Et Paul commence à parler aussi de cette nouvelle création et des choses à venir. Cette nouvelle création, elle est marquée par quoi ? Par la résurrection et la victoire sur la mort. Et c'est par Christ seul que cette résurrection, elle est possible. Et c'est pour cela qu'il a la position la plus importante. Cette nouvelle création, elle est synonyme d'accès à la plénitude de Dieu. En Christ, toute plénitude de Dieu est déjà là. Mais maintenant, dans cette nouvelle création, dans ce royaume, on y a accès par Christ. Cette nouvelle création, elle est marquée par la restauration de tout ce qui a été brisé, cassé, détruit sur la terre comme au ciel. Cette nouvelle création, elle est issue de la réconciliation totale et parfaite avec Dieu, et c'est Christ seul qui apporte cette réconciliation et qui permet la paix. Et là, sans surprise, Christ a le plus haut rang. Christ a la position la plus importante. Parce que tout cela, c'est grâce à lui. C'est en lui, c'est par lui que le Père agit. Et encore une fois, c'est grâce à lui, en lui et par lui que cette nouvelle création se fera. Quelle description époustouflante et fascinante de qui est Christ ! Dans le monde actuel, sur la terre comme au ciel, Christ a la suprématie absolue. Dans la nouvelle création, il l'aura également, et pour toute éternité. Et on voit pourquoi cette place centrale et essentielle de Christ va alimenter toute la doctrine et l'argumentation de Paul face aux difficultés, aux pressions, aux tentations et aux problèmes que vont rencontrer les Colossiens. Tout part de là. Parce qu'on va le voir dans les prochains dimanches. De teasing. Mais on continue le chapitre 1, verset 28. Paul va parler de ses combats pour l'Église. Pourquoi il est en train de combattre pour l'Église ? À cause de Christ ! Parce qu'il annonce Christ ! Il prie pour que les Colossiens aient une vie digne du Seigneur. Et il va leur dire ce que Dieu attend d'eux. Pourquoi ? Chapitre 2, verset 6. Parce que vous avez reçu Christ ! Parce que vous avez reçu Christ, alors comportez-vous de telle manière. Ça vient de Christ. Chapitre 2, verset 12. Par votre baptême, vous êtes unis à Christ. Donc, comportez-vous de telle manière. Il va parler des chaînes dans lesquelles se mettent les Colossiens, des pratiques qui n'ont rien à faire là. Et il va leur dire qu'ils ont la liberté. Ils ont la liberté en Dieu parce que vous êtes morts en Christ. Il va leur parler de leur nouvelle vie. Parce que vous êtes ressuscité avec Christ. La position centrale de Christ. Tout est en Christ. Quel regard portons-nous sur Christ ? Il a cette place tellement essentielle, importante, dans toute la création. Alors à quel point il doit l'avoir dans notre Église ? à quel point il doit l'avoir dans notre vie. Beaucoup d'hérésies dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, et beaucoup d'hérésies encore aujourd'hui, proviennent de l'incompréhension de qui est réellement Jésus, ou de la non-acceptation de qui est réellement Jésus, et du rôle qu'il a dans le plan de Dieu. Parce que derrière cette question, il y a la toute suffisance de ce qu'a fait Jésus. Et la tentation de ces hérésies ou de ces faux enseignements, c'est de dire que Jésus n'est pas aussi grand que ça, ou que ce qu'il a fait, c'est génial, mais c'est pas totalement, parfaitement, complètement suffisant. Il faut rajouter un petit quelque chose, des pratiques, des œuvres, certaines philosophies, une certaine compréhension des choses. Et là, ce passage nous éclaire, nous inspire, nous renouvelle dans notre compréhension de qui est véritablement Jésus, le Christ. J'aimerais terminer avec la fin des versets que nous allons voir aujourd'hui, et le troisième point. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établie sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Le mercredi matin, vous le savez, peut-être, sûrement, dans les annonces de 7 à 8, on se rencontre avec quelques-uns, notamment avec Florent et Marc, pour passer un temps autour de la parole et pour prier. Et comme on avait notre série sur Colossiens, je me suis dit, moi, je vais me préparer. Donc, égoïstement, je leur ai proposé qu'on étudie Colossiens pendant cette série-là. Et dans le livre qu'on avait lu, l'auteur faisait une allusion, je trouve intéressante, sur ce passage-là. Il disait, voilà, on a décrit le Christ cosmique. C'est comme si Paul avait écarté une carte là, en fait, grandiose. On se retrouve dans un truc, si vous allez dans un grand parc américain, absolument fabuleux. C'est incroyable de partout. Et vous vous sentez un peu perdu. Et là, vous trouvez la carte et vous êtes ici. Ah, c'est ouf, je ne suis pas perdu. Et c'est un peu ce qu'il fait là, Paul. Il est en train de dire, voilà, vous êtes ici. Ok. Ben, où est-on, justement, dans cette histoire-là? Parce qu'en disant « vous êtes ici », Paul, il est en train de battre en brèche deux idées souvent communes. Je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais c'est le cas aujourd'hui. Où quand on discute avec les gens, beaucoup disent et pensent « mais finalement, on n'est pas si loin que ça de Dieu. On n'est pas si éloigné de lui. Si on a des bonnes intentions, si on fait des efforts, Dieu aura un regard favorable. Il nous pardonnera. Il nous ramènera à lui. » Et bien, ce n'est pas ce que dit Paul. Ce qu'il est en train de dire dans ces passages-là, ça fait référence à ce qu'il a dit juste avant la description du Christ. Et en fait, on a un schéma qu'on appelle un chiasme qui ressemble un peu à une mise en parallèle, un petit peu de deux choses, avec au sommet... Christ est la tête de l'Église. C'est lui notre chef. C'est lui notre référent. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Et puis, on l'a vu, il y a toute cette position qu'il a dans la création actuelle, la nouvelle création, ce Fils premier-né sur toutes choses. En lui, beaucoup de choses ont été faites. Par lui, Dieu a fait beaucoup de choses. En lui, tout subsiste, etc. etc. Et là, Paul est en train de mettre ce petit repère « vous êtes ici ». Vous êtes sous le pouvoir des ténèbres, on l'a lu. Vous êtes exclus et ennemis de Dieu à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des mauvaises œuvres, des mauvaises choses. Vous n'êtes pas proche de Dieu. Vous êtes exclus. Vous avez déjà vu des matchs de foot ? Celui qui est exclu, il n'est pas près du ballon. Il est sur la touche, il n'est même plus sur le terrain. Vous êtes exclu. Vous êtes ennemis. Peut-être que, et même sûrement, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Mais c'est la réalité. À cause de nos pensées, à cause de nos œuvres, à cause du péché en nous, qu'on a envie de se dire « mais c'est quand même pas si catastrophique que ça, on fait quand même des bonnes choses aussi, n'est-ce pas ?» Oui, des mauvaises œuvres, des mauvaises pensées, mais Dieu va s'en occuper, c'est un petit détail. Si d'un autre côté on fait des efforts, est-ce que vous êtes ses ennemis ? Vous êtes exclus ? Vous êtes sous le pouvoir des ténèbres ? Mais vous l'avez remarqué dans ce qu'a dit Paul, il a dit autrefois. Il a dit autrefois et maintenant. Et qu'est-ce qui caractérise ce maintenant ? Mais ce maintenant, c'est que on est dans le royaume de son Fils. On est délivré. On a reçu le pardon. On est saint, irréprochable et sans faute devant lui. Qu'est-ce qui a généré ce mouvement ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait un autrefois et il y a un maintenant ? Comment on est passé du pouvoir des ténèbres au royaume de son Fils, de ennemi et sans faute devant lui ? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a arrachés. C'est Dieu qui nous a réconciliés. Ok, c'est lui qui initie le mouvement, mais comment ? En vertu de quoi ? Ben simplement en étant unis au Fils, par le sacrifice de son Fils. On retrouve ce parallélisme dans les deux textes. Et si Dieu nous sauve, nous pardonne, nous réconcilie, elle est où votre part là-dedans ? Elles sont où vos bonnes œuvres et vos bonnes intentions ? Elles sont nulle part, parce qu'on peut avoir toutes les bonnes œuvres et les bonnes intentions du monde, c'est l'œuvre de Dieu, uniquement. Ces bonnes œuvres et ces bonnes intentions n'entrent pas dans l'équation de notre salut. Alors oui, les questions d'œuvres et d'intentions, il en parle après, je n'ai plus la place dans le slide, mais il a parlé de ses œuvres bonnes, de cette vie qui plaît à Dieu. Dans le passage de la fin, il parle de rester accroché à la foi. Mais ça, c'est quoi ? C'est dans la deuxième étape. C'est une fois qu'on est uni, une fois qu'on est arraché, une fois qu'on est délivré, une fois qu'on est pardonné. Quand on est en Dieu, quand on est en Christ. Alors là, oui, vas-y. Et je t'accompagne. N'est-ce pas ? On a lu que par l'Esprit, par le Fils, par plein de choses, Dieu nous guide sur ce chemin. Et là, on peut œuvrer. Là, on peut faire des efforts. Là, on peut travailler. Mais c'est parce qu'on est déjà en Christ. C'est parce que lui a déjà tout fait. Notre salut, notre réconciliation ne vient que de Christ. Et nous, on ne peut que l'accepter et le saisir par la foi. Christ a cette place centrale, unique et parfaite et toute suffisante à la tête de l'Église. Il a cette place centrale, unique, parfaite et toute suffisante dans la création. Il a cette place centrale, unique, parfaite et toute suffisante dans l'histoire du salut. Il doit avoir cette place centrale, unique, parfaite et toute suffisante dans nos vies. Il n'y a rien à chercher ailleurs. Il n'y a rien qui puisse compléter ce qu'il a fait. Nous avons tout en lui. Ce matin, on a parlé de trois sujets. On a parlé, à l'exemple de Paul, que par la connaissance de Dieu, on peut avoir une vie alimentée constamment dans la prière, dans la reconnaissance. Pas être simplement sujet à tout ce qui nous arrive, mais à trouver en Dieu une source inépuisable de reconnaissance et d'exhortation. Paul nous a partagé cette vision incroyable, enfin incroyable, mais exceptionnelle de Christ, qu'on puisse être renouvelé dans notre compréhension de qui est Christ. Et enfin, notre place unique en Christ. Il est au centre de tout. quel sujet de joie et de reconnaissance.